du voyage dans la culture enfantine. Bienvenue dans le magasin des petits explorateurs.
Rue des Écoles. Louise Touret.
Le magasin des petits explorateurs, c'est le titre d'une exposition actuellement proposée au musée du Quai Branly à Paris. Une exposition passionnante que nous conseillons vivement, tout comme la lecture du catalogue. Une lecture qui raconte tout ce qui a fait rêver à de lointains voyages les enfants d'autrefois et même ceux d'aujourd'hui. Et oui, l'ailleurs est un thème central de la culture populaire. Pensez à Jules Verne, pensez à Tintin, pensez même aux images des tablettes de chocolat. Une source intarissable d'inspiration artistique qui va nourrir les imaginaires, nos imaginaires. L'invitation au voyage, la jubilation de l'aventure, l'exploration comme pédagogie, tout ceci est donc raconté par une multitude de productions culturelles destinées aux enfants depuis plus de 300 ans. Et au centre de ces récits, la rencontre entre les civilisations, ou plutôt celle avec l'ailleurs, avec l'autre, vue de l'Occident. Cette rencontre, c'est un émerveillement, mais c'est aussi l'idée de leur supériorité transmise aux petits Français de métropole, un racisme culturel très prégnant. C'est toute la beauté et toute la laideur du monde, une histoire qui permet aussi de retracer l'évolution de la manière dont on s'adresse à la jeunesse, aux enfants, depuis plus de 3 siècles. Et enfin, d'émission La leçon de choses avec Valérie Jouve, photographe qui raconte à Sophie Bobert comment son éducation artistique a compté bien plus que l'école dans sa vie d'enfant. Et puis, les actualités de l'éducation, c'est avec vous, Marie-Caroline Missire. Bonjour.
Bonjour.
Au programme de ces actualités,
eh bien, un flashback sur le thème de la laïcité vers le début des années 2000. Et puis, la grosse info de la semaine, non, ce n'est pas Parcoursup, je vais vous parler du lycée professionnel.
Une rubrique indispensable et une rubrique en partenariat avec le magazine L'étudiant. Rien ne nous arrête, rien n'arrête les explorateurs dont cette exposition, le magasin des petits explorateurs, parle. Alors ce générique de dessin animé que vous entendez, il est signé Michel Legrand et le dessin animé s'appelle « Il était une fois les explorateurs ». Il s'inscrit, vous savez, dans la série des « Il était une fois l'homme »,« Il était une fois la vie » et autres. Ces explorateurs vont être au centre de notre émission « Aventuriers ». Petits aventuriers. Pierre-Yves Belfis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller scientifique de cette exposition, le magasin des petits explorateurs, et responsable du fonds des revues à la médiathèque du musée Branly. Pascal Diby, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'ethnologie à Paris Diderot et auteur de 2 textes du catalogue de l'exposition. Avec nous en duplex depuis Bruxelles, Christelle Tarot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne spécialiste du Maghreb contemporain. Vous enseignez à New York, à Columbia et à Paris. Vous êtes membre du Centre d'histoire du 19e siècle et vous copubliez un livre intitulé « Sexe et colonies, histoire et représentation du 15e siècle jusqu'au présent ». Et ce sera à la découverte, à la rentrée. La découverte, c'est le nom de cette maison d'édition, c'est aussi le sujet de notre émission. Ça commence en fait ce matin. Magasin des petits explorateurs, il s'ouvre avec ses découvertes des nouveaux mondes au pluriel. Et on a une double histoire qui va commencer à se raconter. D'un côté, le romantisme et l'exotisme dans lesquels l'enfance a sa place. On peut par exemple penser à un roman comme Paul et Virginie, Pierre-Yves Belfis. Et puis d'un autre côté, eh bien, ce qu'on va enseigner de ce qu'on apprend de ces nouveaux mondes avec toute la culture encyclopédique qui va s'élargir.
Absolument. Alors, l'exposition est conçue elle-même comme un bateau, avec une partie bâbord, une partie tribord. On commence l'exposition par la partie tribord, qui, comme vous l'avez souligné, s'attaque au romantisme, s'intéresse au romantisme, avec ces éléments phares, la nature déchaînée. On l'a retrouvée dans la tempête, on l'a retrouvée dans la forêt luxuriante, l'île déserte, ou le désert même parfois. Et la figure tutélaire de ce côté tribord est bien sûr Robinson Crusoé, tout ce côté-là vient un peu de Jean-Jacques Rousseau et de ce romantisme qui va venir après, de l'homme qui revient à l'état naturel, qui se lave de la société pour revivre en harmonie avec le monde et la nature. On le retrouvera bien sûr chez Robinson Crusoé, dans Paul et Virginie, et dans plein de Robinsonades qui vont suivre après dans la littérature. On peut citer Macao et Cosmage, qui est un très beau livre aussi. L'autre côté, donc le côté bâbord, vient plus de Denis Diderot et de la volonté encyclopédique de cette époque-là, où on va faire la somme du monde, on va essayer d'enfermer le monde. Et pour ça, on va passer par plein d'instruments pédagogiques, du diorama à l'atlas, mais c'est aussi les expositions coloniales.
Exposition
universelle, mais je pense à un livre autour de l'exposition coloniale pour les enfants qui était « Faites le tour du monde en un jour » à l'exposition coloniale. Voilà. Donc on fait la somme du monde.
Vous nous précisez ce qu'est un diorama? Parce que tout le monde
diorama,
ne le sait pas.
Un diorama, c'est une maquette scénette en 3D qui raconte une vie qui fait un peu vivant, même si c'est figé. Et donc peint avec des personnages, une action qui raconte une action. Alors ça peut être la vie au quotidien, mais ça peut être aussi une scène de chasse, une scène de marché, un petit théâtre.
Alors d'un côté la nature, de l'autre la culture, et toujours cette obsession du voyage, parce que l'exposition parle d'obsession, c'est le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, mais pas seulement, et j'ai découvert en visitant l'exposition que le tour du monde avait été mis en scène dans des tas et des tas de publications destinées à la jeunesse.
Oui, tout le monde veut faire le tour du monde, en bateau, en avion, en moto. On montre la première moto qui a fait le tour du monde, qui est fantastique, deux réservoirs, aussi l'autogire. Enfin, à partir de la première guerre avec l'avion, on fait le tour du monde beaucoup plus facilement. Voilà. C'est bien sûr Phileas Fogg, en 80 jours, le fait avec plein de moyens de locomotion, mais à partir du moment où on a l'avion, on fait beaucoup le tour du monde.
Et une valorisation du voyage, du déplacement vers le lointain, qui dure jusqu'à aujourd'hui, Pascal Diby.
Mais je pense qu'il a fallu y penser dans le sens où je ne suis pas certain qu'on se soit extrêmement intéressé aux enfants et au désir de leur proposer des choses ludiques pendant bien longtemps. Finalement, un des premiers jeux que vous montrez dans l'exposition, c'est le jeu de cartes qui a été offert à je ne sais plus quel dauphin.
Au fils de Louis XIV.
Au fils de Louis XIV. Et voilà les grands divertissements qu'on pouvait avoir. Et ce qui est très bien dans l'exposition, c'est qu'on voit comment petit à petit, justement, cet intérêt va aller vers les enfants, mais il est lié aussi au développement technologique. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où l'imprimerie va se développer, qu'il va y avoir la possibilité de produire ce qu'on pourrait appeler, nous, des livres de poche. Mais en fait, on sort, je dirais, des livres de princes ou des belles heures, etc. Et on rentre dans une production d'ouvrages. Et la question va commencer à se poser, mais relativement tardivement, effectivement, de pouvoir présenter des univers différents d'une autre. Mais il faut se rendre compte que le choc a été rude de cette découverte de l'autre, que la découverte de l'Amérique, ça a été cette aventure incroyable que je était un autre, et qu'il a fallu effectivement présenter cet autre. Et ce que raconte magnifiquement cette exposition, c'est comment il a été difficile de proposer effectivement un récit construit à ces enfants-là, parce qu'on n'était pas dans le récit du tout, on était en pleine idéologie. Et c'est un développement, je dirais pratiquement, la colonisation avec ses casquettes et ses drapeaux se développe et propose un monde qui est déjà pré-expliqué dans la mesure où ça rejoint des thèses très idéologiques, effectivement, qui sont présentes en Occident. On va revenir dessus, mais ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que c'est quelque chose de tout neuf. Hein, ces ouvrages qui vont paraître, ces premiers jouets qui vont apparaître avec cette possibilité de jouer sur la profondeur. C'est pour ça qu'on parlait des diaporamas. Mais ça a été aussi les premiers livres découpés avec la mise en profondeur là aussi d'univers qu'on connaissait pas. Et puis à chaque fois, ce regard, qui avant d'être, si je puis dire, clinique, était quand même très imaginatif.
Parce que l'exposition et le catalogue raconte deux histoires en parallèle. C'est l'histoire de la culture et des publications destinées à la jeunesse, et puis l'histoire de la figure de l'autre en Occident. Et ça, évidemment, on va en parler avec vous, Christelle Tarot. Mais puisqu'on a parlé de Robinson Crusoe, je vous propose d'écouter un extrait d'une lecture du roman.
Mon premier effort fut d'enseigner les rudiments de notre langage. En peu de temps, il a pris son nom, le mien, ainsi que celui de la plupart des objets qui nous entouraient. Vendredi, que vois-tu ici ?
Une chèvre.
Bravo. Et là ?
Un verre avec de l'eau dedans.
Bien. Et encore ici ?
Une cruche tout cassée avec rien dedans, à cause du trou que je vois.
Tu as raison, mon ami. Je tentais d'abord de le détourner de ses habitudes de cannibale, et pour cela, je l'emmenais à la chasse. Seulement, au premier coup de fusil, dirigé contre un grand oiseau, je crois, je vis Vendredi qui se jetait à terre et psalmodiait ses prières. Que demandes-tu donc à ce fusil ?
Ne pas tuer pauvre Vendredi. Vendredi travaille bien, mange pas beaucoup et surveille maison.
Vous aurez peut-être reconnu la voix de Claude Rich. Il est en compagnie du comédien Hassan Kouyaté. Ça a paru en 2003 chez Frémaux et Associés. On peut toujours se procurer cet enregistrement à partir de 8 ans. Robinson Crusoe, c'est 1719. Les adaptations de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, ça va jusqu'à maintenant. Hein. La dernière, elle date de 2016. C'est dire la place énorme de cette œuvre dans l'imaginaire, et sa pérennité, c'est aussi une construction de l'autre. C'est Vendredi, évidemment, qui est figure de l'altérité et du cannibale aussi. Alors le cannibalisme, il en est énormément question dans l'exposition. Christelle Tarot, sur cette construction, vous qui êtes historienne et vous qui n'avez pas participé ni au catalogue ni à l'exposition, elle est historiquement construite et construite aussi dans la manière dont on s'adresse à la jeunesse.
Ben, évidemment, là, on le voit immédiatement, ça nous saute aux yeux avec l'extrait que vous nous avez présenté. L'autre est globalement considéré comme un primitif ou un sauvage, mais aussi un grand enfant. D'ailleurs, il y a dans l'idéologie coloniale, en tout cas pour le 19e siècle et le 20e siècle, il y a une distinction à faire justement entre le sauvage définitif, je dirais, un peu partout sur les continents, et puis après la Première Guerre mondiale, un changement avec cette figure du grand enfant qui est extrêmement mobilisé, et on voit qu'il en a toutes les caractéristiques. Vendredi, il est crédule, il est innocent, il est gentil. Donc voilà, donc il y a une construction effectivement extrêmement importante de cette altérité, et de fait, comme nous sommes dans un contexte où l'Europe veut rêver, imaginer des autres au sens large, des autres qui sont aussi des ailleurs physiques, géographiques, mais aussi des autres culturels, eh bien évidemment, on va construire ces autres sur des altérités extrêmes. Et donc cette altérité extrême, elle conduit évidemment à mettre en avant des pratiques jugées elles aussi extrêmes. Vous avez évoqué le cannibalisme, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très importante et de manière très pérenne en fait pendant une grande partie du 19e siècle, et puis même encore au début du 20e siècle, on a des réminiscences de ces figures de l'altérité extrême. Donc oui, cette construction de l'autre qui peut être soit un autre innocent et bienveillant, mais du fait de cette innocence et de cette bienveillance, parfois présentée aussi comme un peu simplet, un peu archaïque, si j'ose dire. Et puis de l'autre, des figures beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus violentes. Et donc il y a toujours cette impossibilité, évidemment, d'être comme nous, et c'est ça aussi qui rend ces univers et ces populations fantasmatiques, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que ça relève quand même d'une vision idéologique forte, hein, comme le précisait un de vos invités, et puis cette construction idéologique forte, elle est pérenne, et évidemment, s'attaquer à l'enfance, c'est aussi rendre du point de vue du déroulé des générations, ces stéréotypes très fixes.
Et si construire les représentations dans le temps, évidemment. Pierre-Yves Belfis, sur cette figure du canimal, on peut peut-être s'arrêter. Il s'agit là d'exposer, de démonter la panoplie des lieux communs xénophobes. Je reprends la formule employée dans un cartel. Lieux communs xénophobes qui ont perduré jusqu'à la moitié du XXe siècle à peu près.
Le cannibale est bien sûr un des ingrédients de la recette de l'explorateur, l'histoire de l'exploration pour la jeunesse. Voilà, c'est le danger ultime, la peur d'être mangé.
Et du coup, il intervient dans un peu toutes les histoires qui vont se dérouler en Afrique, qui vont être proposées aux enfants jusqu'aux années 50.
Afrique, Océanie, on va trouver du cannibale à peu près partout. Ce qui est assez marrant, c'est que jusqu'à très récemment, en France, on trouvait des gâteaux, j'inverse l'image, des gâteaux bamboula, des gâteaux tête de neige, choses comme ça, et c'était au final l'enfant blanc qui mangeait le petit noir et qui avait un comportement cannibalistique jusque dans les années 80, parce que ça dure très récemment, jusque dans les années 90, puisque Bamboula va même jusqu'à faire un zoo humain en Bretagne dans les années 90. En 1994, Aiguillet-Saint-Michel, oui, avait fait le village de Bamboula, recréé le village de Bamboula en Bretagne.
Donc, pas si loin de nous. Et il y a toute une réflexion qu'on peut faire et que vous faites, Pascal Diby, sur l'invention du noir. Et en vous lisant, on apprend pas mal de choses qu'on ignore, parce que cette histoire-là, on ne nous l'a pas apprise à l'école et même dans la culture populaire.
Mais ce qu'on apprend, c'est une chose qu'on sait déjà, au sens où on a mis au point, je vais parvenir sur l'histoire de la construction du racisme, si je puis dire, mais il n'empêche qu'on avait mis au point, ou qu'on tentait de mettre au point, cette échelle raciale, et que dans ces échelles-là, on avait une vision chromatique du monde. Donc, ça veut dire en couleur. On avait du noir, du jaune, enfin du rouge au début, du noir, du jaune, du blanc. Évidemment, le blanc primait surtout, même depuis Buffon, on disait que c'était la couleur idéale. Et de l'autre côté, le noir n'était pas considéré comme couleur pendant très longtemps. Et d'ailleurs, il était très peu présent dans l'utilisation même, hein, si je puis dire, comme couleur. Et en fait, cette idée de l'autre différent du point de vue de la couleur, bon, elle est déjà présente chez Origène, elle est déjà présente effectivement dans la vision chrétienne du monde avec les Éthiopiens, mais en réalité, il a fallu attendre pour, je dirais, la rendre plus menaçante, l'invention du diable. Et le diable n'a été inventé qu'au XIe siècle. Et le diable représentait la partie sombre de notre aventure, et c'est justement là où notre noirceur a commencé à sortir de dessous la peau.
Les Éthiopiens étant le nom qu'on donnait aux
noirs.
Voilà.
Oui, oui, dans la Bible, enfin, je veux dire, bien entendu.
Peut-être c'est le repréciser.
Non, non. Oui, bien sûr.
Ce qu'on retrouve aujourd'hui encore dans la culture, c'est le blackface avec des déguisements qui font débat. Et ça arrive très régulièrement dans l'actualité. Et moi, ce que je vois dans cette exposition, c'est aussi une certaine violence d'un monde sur l'autre, une violence qu'on peut recevoir aussi comme une violence aussi sur nous. Christelle Tarot, sur cette question de la violence aujourd'hui, de ce message de ces cultures, de cette culture du 19e et du 20e siècle.
Alors, il y a effectivement aujourd'hui un débat historiographique important pour savoir comment est-ce qu'on présente ces images, notamment pour évidemment les historiens qui travaillent spécifiquement pour l'image. Et je rappelle que le 19e siècle, et souvent que le 19e siècle, c'est le grand siècle de la presse écrite, ce qui est tout à fait juste. Et d'ailleurs, on l'observe aussi dans l'exposition au travers des multiples publications de presse qui permettent de publier les grands auteurs comme Jules Verne par exemple, mais c'est aussi le début de la civilisation de l'image avec l'invention de la photographie, et donc les images ont un poids évidemment terrible. Donc, faut-il les montrer? Faut-il ne pas les montrer? Si on les montre, comment est-ce qu'on les montre, etc. Moi, je suis tout à fait partisane de montrer les images, de les affronter, parce que si les systèmes ségrégationnistes racistes sont quasiment morts partout, le racisme, lui, ne l'est pas. Donc, je pense que c'est vraiment important, notamment quand on s'adresse à des jeunes publics, de montrer ces images, de les expliciter, de les contextualiser. Et du coup, c'est toute la richesse d'une exposition comme celle qui a lieu au Quai Branly en ce moment, de nous permettre d'affronter ces images avec un discours critique. C'est-à-dire de dire, ben voilà, ces images ont une histoire, elles sont importantes, elles font partie de notre histoire individuelle, je veux dire individuelle française, mais aussi commune. Mais il faut être capable de proposer des lectures critiques de ces dernières.
Et c'est ce qui est fait dans cette exposition. À qui s'adresse-t-elle d'ailleurs, Pierre-Yves Belfis ?
Alors, plutôt aux grands enfants, mais pas aux enfants non accompagnés, et au contraire très bien accompagnés, puisqu'il faudrait que les parents ou les accompagnants puissent expliquer vraiment le discours. L'exposition commence aussi sur l'école des mots, où on replace dans l'histoire et on raconte un peu l'histoire de ces mots qu'on va retrouver dans toute l'exposition, le sauvage, le cannibale, le patagon, le nègre. Et voilà, on commence par cette école des mots qui redonne le conseil.
Ce qui m'a intéressé également beaucoup, c'est cette ambivalence en fait du regard sur l'enfant. À la fois, on lui enseigne les valeurs de l'Occident, une supériorité de l'homme blanc, voilà, c'est historique. Et puis que lui, en tant qu'enfant, il va pouvoir devenir un petit acteur de ses apprentissages. Il devient un explorateur. On le fait rêver à une certaine indépendance. Et même, on va voir des héroïnes, des filles. Donc là aussi, on peut y voir un progrès dans la manière dont on considère les enfants, du moins lorsqu'ils sont blancs, Pascal Diby.
Oui, ce qui est amusant à travers toutes ces revues qu'on voit là pour enfants, c'est qu'en fait l'enfant est fait pour désobéir et que pratiquement tous ses départs sont des refus effectivement d'appartenir à son propre monde et d'aller chercher ailleurs des choses. Mais il y va avec les yeux de ses parents, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y va avec le contexte, on a parlé d'idéologie, mais en tout cas culturel de l'époque, et quand il débarque en Afrique, il débarque pas en Afrique, il débarque chez des Noirs, quand il débarque en Chine, il débarque chez des Jaunes, c'est-à-dire il prend tous les poncifs effectivement diffusés dans la société, il les remet en perspective, et dans le fond c'est ça le voyage, c'est ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire un grand voyage sans rapporter des histoires qui sont totalement fantastiques. Et ça a commencé très tôt, ça a commencé avec les voyages d'Amstaden ou de Jean Doléry, qui ont rapporté effectivement du bout du monde où ils avaient été en contact avec Tupinamba ou d'autres, des aventures tout à fait extraordinaires. Et les seuls récits véridiques qu'on a, c'est au tout début de la conquête, au tout début de la découverte de l'Amérique, on a fait des récits à peu près, sérieux. Et puis après, si vous partez loin, vous pouvez pas dire que vous avez trouvé les mêmes que chez vous. Donc vous revenez avec l'idée que vous avez trouvé des gens tout à fait extraordinaires. Mais le problème dans ce langage colonial, c'est que l'autre était tout le temps infériorisé. C'est-à-dire il était celui qui ne savait pas. Or l'explorateur doit découvrir celui qui sait et apprendre de lui pour éventuellement en être inspiré. Et là c'est l'inverse, c'est qu'on le résout à soi, c'est-à-dire c'est tout le temps l'Occident qui se déplace avec sa propre vision du monde et où qu'il aille, il voit presque la même chose. C'est-à-dire qu'il voit des gens qui sont des cannibales, qui sont des barbares, qui sont un peu idiots, qui comprennent pas ce qu'il dit, alors qu'il suffirait de revenir effectivement sur la linguistique, et c'est pour ça que c'est à raison que l'exposition s'ouvre sur la langue, parce que c'est fondamental de savoir d'où viennent les mots qu'on utilise pour décrire.
Christelle Tarot, sur la place de l'enfant et de la petite fille, et puis de la femme dans ces récits.
Alors, si vous me permettez juste, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je pense que c'est vraiment important. Et je répondrai à votre question ensuite, évidemment. Mais effectivement, dire l'autre et définir l'autre, c'est absolument essentiel dans la relation de pouvoir qui est en train de s'installer à la frontière entre le 18e et le 19e siècle. Et donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on emploie le terme voyager ou voyageur, ou lorsqu'on emploie le terme explorer ou explorateur, on dit pas exactement la même chose. De la même manière que on part du principe qu'un explorateur va découvrir quelque chose. Notons au passage que c'est les Européens qui découvrent, mais que évidemment l'Amérique existait déjà, que l'Afrique existait déjà, que l'Océanie existait déjà. Donc on est déjà dans un regard qui est un regard extrêmement européocentré. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et ça marque de manière très importante, évidemment, tout cet imaginaire enfantin. Et je rappelle que les enfants deviennent ensuite des adultes. Et comme ils arrivent déjà avec un discours qui est très structuré par les stéréotypes, bon, bah, évidemment, on réifie, on a tendance à répliquer de manière importante, évidemment, cette supériorité raciale et cette inégalité entre les populations. Ensuite, la place des exploratrices filles, elle est à l'image de leur place dans l'exploration des adultes, c'est-à-dire assez minimaliste. Alors, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas de femmes, mais les femmes sont assez peu mises en avant. Le 19e siècle, c'est le siècle de l'héroïsation des explorateurs et des aventuriers européens, bien évidemment. Et de fait, il y a des aventures et des explorations extraordinaires, en commençant par celle de Mungo Park et puis en passant par bien d'autres, notamment celle de René Caillé qui arrive à Tombouctou dans des circonstances assez incroyables. Donc il y a des femmes, mais elles sont peu présentes. J'observe que dans les publications qui sont montrées dans l'exposition, parfois aussi il y a des couples. Il y a des couples d'enfants qui partent à la découverte d'eux.
Et ce couple d'enfants, c'est aussi un couple autonome d'enfants qui est étrangement sans adulte. C'est aussi le début de ce récit d'enfants qui vont fonctionner tout seul en même temps. Ça aussi, c'est une nouveauté rapidement.
C'est un processus d'autonomie, mais ça arrive aussi dans un moment historique, en fait, où on commence à faire émerger la figure de l'enfant en tant que telle. Alors d'abord dans les élites, et puis ensuite, évidemment, cette figure va se démocratiser. Je ne veux pas dire, bien sûr, qu'il n'y avait pas d'enfants avant le XVIIIe siècle, mais le rapport à l'enfant, la pédagogie de l'enfant, la perception que l'enfant est un être à part et qu'il doit être traité en tant que tel, avoir des jeux pour lui, des lectures pour lui, des activités adaptées pour lui, c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait. Et du coup, c'est vrai que là, l'exposition nous montre de manière extrêmement importante à quel point toutes ces publications dirigées vers le public enfantin se développent de manière absolument incroyable. Mais elles sont pas du tout, évidemment, on le comprend, déconnectées, décontextualisées de ce qui se passe au même moment dans la société. Et donc au XIXe siècle, par exemple, c'est tout à fait flagrant que on est dans un rapport qui est nouveau, différent au voyage, à l'exploration. Je pense que ce qu'il montre le mieux, peut-être, c'est le livre de Jules Verne avec Le Tour du Monde en 80 jours, où on voit bien que le facteur vitesse aussi est important. Du coup, ça pose une question, effectivement, de comment est-ce qu'on découvre l'autre quand on veut aller vite, quand ce qui compte, c'est le facteur vitesse. Est-ce qu'on privilégie la qualité du voyage, la qualité des interactions qu'on peut avoir, la découverte réelle des populations ou la performance? Donc on est dans une société qui se transforme complètement, et la littérature enfantine en est un très bon exemple. Et je trouve que l'exposition est, de ce point de vue-là, tout à fait passionnante.
Et elle est passionnante aussi dans ce qu'elle raconte de la littérature enfantine, de comment elle s'est fabriquée et transformée avec le temps. Mais ça, on y revient après notre page d'actualité avec Marie-Caroline Missire. Et nous commençons, chère Marie-Caroline, avec un grand sujet cette semaine, un sujet qui revient cycliquement à la une de l'actualité.
Oui, le ministère de l'Éducation a publié un vade-mecum sur la laïcité. Le ministre en a parlé au micro de Guillaume Erner dans les matins de France Culture mercredi. On l'écoute.
Il n'y a qu'une laïcité, et je suis évidemment pour la laïcité. D'ailleurs, c'est l'article 1 de notre Constitution, et donc normalement, tous les citoyens français sont pour la laïcité à partir du moment où on est citoyen français. Si on respecte la Constitution, on est laïque et pas besoin d'ajouter un adjectif. Laïcité, c'est un principe de confiance, c'est un principe de liberté. Autrement dit, chacun est libre de croire, de ne pas croire, de changer de religion. Et parmi les éléments, parmi les conséquences de ce principe de la laïcité, personne ne doit sentir la pression d'une religion ou d'une non-religion d'ailleurs, dans sa vie personnelle, métaphysique, et a fortiori dans la vie à l'école. Donc en réalité, c'est un principe simple et clair. Justement, ce vademécum de la laïcité que nous publions aujourd'hui à l'adresse des établissements permet de savoir quelle est l'attitude à tenir dans chacun des cas.
Et tout ça, Marie-Caroline, ça vous a fait revenir en 2004 ?
Oui. En 2004, justement, quelques mois avant le vote de la loi interdisant le port des signes religieux ostensibles à l'école, souvenez-vous, un rapport de l'inspection générale sur ces signes religieux, donc, dénonçait des dérives graves à la laïcité et une stratégie de la paix et du silence à tout prix dans les établissements. Un constat sans appel, écrit avec une forme d'urgence par le grand inspecteur général Jean-Pierre Aubin, que vous avez reçu, Louise, à plusieurs reprises dans Rue des Écoles. Et voici sa conclusion dans ce rapport. Sur un sujet aussi difficile et aussi grave, puisqu'il concerne la cohésion nationale et la concorde civile, soulignons qu'il est chez les responsables deux qualités qui permettent beaucoup et qu'on devrait davantage rechercher, développer et promouvoir à tous les niveaux. Ce sont la lucidité et le courage.
Et Marie-Caroline, 15 ans plus tard, la laïcité reste pour vous un point aveugle des politiques éducatives ?
Oui, en témoigne l'absence d'un corpus de données et d'évaluation fiable sur les faits d'atteinte à la laïcité dans les établissements, sur les manquements à la loi. En témoigne aussi le récit sans phare du principal de collège Bernard Ravet, qui dans son livre publié en 2017, je vous donne le titre, « Principal de collège ou imam de la République », décrit sa bagarre contre l'intrusion d'un islam radical dans les classes, ce sont ses termes.
C'est aussi un sujet sur lequel le ministre de l'Éducation, les ministres de l'Éducation sont toujours attendus. Cette semaine, dans une interview fleuve à l'Express, Jean-Michel Blanquer ouvre sa séquence laïcité.
Avec un volontarisme affiché, et on le reconnaît bien là, outre ce vademécum dont j'ai parlé, un vademécum de 83 pages quand même dans les écoles, le ministre veut former les enseignants à ces sujets. Il faut fournir aux enseignants un corpus d'éléments clairs portant à la fois sur le contenu et sur l'attitude à adopter, par exemple lorsqu'une assertion scientifique est contestée au nom de la religion, explique le ministre à l'Express. Autre nouveauté, une hotline laïcité qui permettra aux profs de saisir leur institution en cas d'atteinte à ce principe. Je vous rappelle aussi que Vincent Peillon, le précédent ministre de l'Éducation nationale, avait en son temps beaucoup communiqué sur le sujet avec une charte affichée dans les couloirs des établissements. Mais paradoxalement, sa réforme des rythmes scolaires a complexifié la question du respect de la laïcité à l'école.
Alors, pourquoi ? Quel est le rapport ?
Eh bien, parce que les collectivités et les mairies sont désormais aussi concernées que l'éducation nationale par ces questions de respect de la laïcité. Et les animateurs recrutés par les collectivités, qui sont chargés des temps périscolaires, ne sont pas plus formés que les professeurs pour répondre à ces difficiles questions. De ce point de vue, les rectorats et les collectivités doivent travailler ensemble le sujet pour lutter contre les dérives et les tentations communautaristes à l'école.
Mais finalement, la grande annonce de la semaine est du coup passée un petit peu inaperçue, Marie-Caroline.
Et oui, le sujet explosif de la laïcité a éclipsé une réforme pourtant très très importante, celle du lycée professionnel. Pas moins de 665 000 élèves sont concernés tout de même. Dès la rentrée 2019. Principaux changements annoncés, je vais être rapide, le choix non plus d'une spécialité en fin de troisième, mais d'une famille de métiers pour une spécialisation un petit peu plus progressive des élèves. La création dès la prochaine rentrée de 2000 places dans des classes passerelles, c'est-à-dire des SAS entre la terminale et les BTS. Et puis afin de faciliter la poursuite dans les études supérieures, un test de positionnement en début de seconde pour aider les élèves à s'orienter, à mieux se connaître.
Bon, on ne sait pas si cette réforme va redonner du prestige à la voie professionnelle.
Ben, verra-t-on de brillants fils d'énarques se diriger dans cette voie ? Non parce qu'ils sont en échec scolaire, mais parce qu'ils l'ont choisi. C'est la question que l'on peut se poser aujourd'hui. Et car à l'autre bout de la chaîne du secondaire, le premier bilan de Parcoursup, ça y est, j'y viens, la nouvelle plateforme d'entrée dans l'enseignement supérieur, a pour un moment, je crois, changé la perception de l'orientation et des champs des possibles offerts aux jeunes.
Ah oui, peut-être. On verra. Mais quel bilan, déjà, une semaine après l'ouverture de la phase d'admission de Parcoursup, c'était le 22 mai.
Alors, pardonnez-moi, je vais vous donner quelques chiffres, mais c'est important. 224 304 élèves exactement sont toujours en attente d'une réponse sur cette plateforme. Sur le papier, l'engagement du gouvernement est tenu, voire même dépassé. Hein. Plus des deux tiers des candidats auront eu au moins une proposition bien avant le début du bac. Et comme le rappelle le site EducPro de l'étudiant, qui est spécialisé sur l'enseignement supérieur, sur le sprint de départ le 23 mai au matin, il n'était que 436 000 à avoir eu une proposition. Et en 7 jours, ils sont 100 000 élèves de plus grâce à ces places qui se libèrent chaque fois qu'un candidat dit oui à la formation qu'il a demandée. Et 5 000 élèves, enfin, ont demandé à être accompagnés par les commissions mises en place par le recteur en cas de refus de tous leurs vœux, ce qui est assez problématique. Mais cette machine de Parcoursup avance parfois au prix d'un stress vraiment élevé des lycéens et de leurs familles. À quelques jours du baccalauréat maintenant, ces élèves qui parfois n'ont pas pu obtenir la filière de leur choix et qui restent suspendus au choix de leurs congénères pour diminuer les listes d'attente. Voici la mécanique Parcoursup en marche.
Et il faut lire sur le sujet la tribune de la sociologue spécialiste de la jeunesse Cécile Vandevelde, publiée dans Le Monde cette semaine. Parcoursup laisse explicitement un système administré, classé, ordonner les rêves d'une génération. Je crois qu'on comprend qu'elle est très critique.
Et de ce point de vue, je crois que c'est une certaine conception de l'orientation et de l'entrée dans l'âge adulte qui trouve ici son point d'arrivée. Le choix d'études qui repose sur une envie, un rêve, une projection plus ou moins juste de son futur, des lectures, vient se heurter peut-être un peu brutalement, dès l'année de terminale, à la possibilité même de faire ce choix en fonction de ses notes, de son dossier et de pas mal d'inconnus, des algorithmes locaux, des établissements, aux positions d'autres étudiants sur liste d'attente, la fin de l'innocence et une entrée de plein pied dans la compétition désormais mondiale de l'enseignement supérieur.
Et vous n'aimez pas la musique? Parce que vous n'avez...
Si, beaucoup.
Vous n'avez pas choisi d'en parler cette semaine. Le ministère communique beaucoup sur la musique. C'est la grande passion de Jean-Michel Blanquer. Avec la ministre de la Culture, ils ont proposé un grand concert des orchestres scolaires cette semaine à la rentrée 2018. Une option d'éducation musicale sera proposée dans le plus de collèges possible à raison de 2 heures par semaine. Il y a un plan évalué à 20 millions d'euros. Donc quelques moyens pour la musique. On pouvait terminer sur cette note. Écoutez, rue des Écoles sur France Culture, nous avons ouvert le magasin des petits explorateurs entre du merveilleux et petite boutique des horreurs tout à la fois. On a parlé de l'enthousiasme occidental, de la découverte d'autres contrées, cet enthousiasme transmis aux enfants et puis de ce regard ethnocentré, ce regard raciste qui s'est développé tout au long des 18, 19e puis 20e siècle où les choses ont enfin changé. Mais il y a une question qu'il faut aborder quand on parle de cette exposition et de ce catalogue, c'est la qualité de ce qui a pu être proposé aux enfants en termes de publication, parce que il y a aussi avec les progrès de l'imprimerie, progrès technique, une qualité de l'illustration qui va se développer. Et ça, c'est un support pour l'imagination des enfants. Pierre-Yves Belfis, racontez-nous.
Oui, ces progrès technologiques vont multiplier les images. On va avoir un foisonnement d'images. Tous les dimanches, vont arriver sur la table du salon familial le journal des voyages avec une grande couverture illustrée. Et puis ça va être des productions de qualité aussi très tôt. Je pense à 1919, Macao et Cosmage de Eddy Legrand, ou avec d'autres auteurs comme Charles Vildrac, on a des auteurs qui ne veulent pas faire de la littérature au rabais pour la jeunesse et qui vont vraiment faire quelque chose d'intelligent, tant au niveau graphique que textuel. Orsène Robinsonade de Macao et Cosmage, mais c'est aussi un ouvrage pour enfants anticolonial en 1919, où justement on a un enfant noir, un enfant blanc qui vivent en harmonie dans la nature ensemble. On ne sait pas d'où ils viennent, ils ne se sont pas rencontrés, ils sont là ensemble, et c'est un jour au loin la civilisation qui arrivera sous les traits d'un bateau militaire français et qui va grignoter l'île paradisiaque de Macao et Cosmage.
Ce sont aussi les bandes dessinées avec la couleur qui arrive, qui est de plus en plus présente, qui arrive dans les foyers, dans les chambres des enfants. Et ça, ce sont aussi des souvenirs que l'on a en partage, génération après génération. Pascal Diby, vous avez écrit là-dessus.
Oui, justement, je pense que goût et image se rejoignent, puisqu'il y a beaucoup de marques de chocolat qui nous proposent des albums de timbres avec des représentations ethnologique en fait de différentes sociétés, et je dois avouer que j'ai passé mon enfance à coller comme ça des timbres dans la case où il fallait mettre le grand sachem ou Tonatanka ou le grand bison, etc. Et que d'une certaine façon j'étais totalement fasciné par ces images dessinées d'ailleurs en couleur, qu'en plus il fallait lécher pour mettre sur la page, et évidemment le chocolat qui l'accompagnait, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est qu'on est en train de donner le goût du voyage, et que quelque chose fait que notre univers va s'élargir à travers justement ces propositions enfin colorées d'autres univers. Parce que là aussi, ça veut dire une transformation technologique importante. Très longtemps, ça a été du noir et blanc. Et quand la couleur est arrivée, ça voulait dire aussi que la couleur a d'abord été réservée au monde des adultes. Et on a commencé à prendre en considération les enfants et à se rendre compte que oui, les enfants aimaient beaucoup la couleur. Et là, ça a été le début des petits Indiens, des différents ouvrages qui vont sortir, c'est Hachette et d'autres, dans les années 50-60, où dans le fond, on a des personnages tout à fait accessibles, et cette fois, c'est plus dans une démonstration d'une barbarie ou d'être différent, etc. C'est au contraire dans une invitation à être l'autre complètement, avec cette espèce de drôle de message qui a été véhiculé pendant toute la colonisation, c'est qu'il fallait faire de l'autre notre ami. Mais évidemment, dans une vision européocentrique, c'est-à-dire qu'il nous ressemble, et enfin, dès qu'il sera nous, nous pourrons enfin nous promener main dans la main, quoi.
Avec aussi, dans ces propositions d'images, une proposition parascolaire, c'est de l'atlas destiné aux enfants.
Oui, bien sûr, l'atlas qui compile le monde, qui est parfois offert aux enfants à l'école, qu'on va retrouver. C'est une première façon d'appréhender le monde. Si je vous peux répondre juste sur un espace qui est important, une invention qui est importante, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure, la naissance de la chambre. La chambre a une naissance aussi, et cet espace sans adulte où l'enfant crée son monde est très important.
Une chambre à soi, naissance à soi. De l'intimité.
Un coffre à jouets pour chacun et aussi pour les enfants. À l'échelle de l'enfant, c'est-à-dire qu'il est dans son coffre à jouets et qu'il réagence comme ça toutes les parties qu'il aurait pu rencontrer.
Si j'ai parlé de l'Atlas, c'est parce que cette émission s'intéresse aussi à l'école. On va poser la question à Christelle Tarot. Comment ces représentations, elles s'immiscent non seulement dans la culture enfantine, mais aussi dans la culture scolaire?
Elle passe d'abord, bien sûr, par les programmes scolaires et puis par les manuels scolaires. Donc, et puis, en appui du manuel scolaire, évidemment, qui est le produit de son temps, si j'ose dire, qui est une caisse de résonance, évidemment, des grandes questions qui agitent les sociétés européennes à ce moment-là. Il y a par exemple aussi les cartes. La cartographie est très importante, puisque, notamment dans les petites classes, on va présenter le monde, et notamment le monde colonial pour les pays européens comme la France, qui dispose d'un empire colonial important. Donc on va montrer ce monde colonial, on va en montrer aussi les richesses de la faune, richesses de la flore, richesses des cultures. Donc il y a aussi cet aspect évidemment très important, qui n'est pas dissocié, qui ne peut pas être dissocié de l'idéologie coloniale, mais qui recèle aussi des informations extrêmement passionnantes pour les enfants. Donc l'école a été, l'école de toute façon est évidemment un haut lieu de la réplication des stéréotypes, mais elle ouvre aussi des possibles. Elle ouvre aussi des possibles. Et donc dans ces possibles, il y a des référents communs, des référents entre la culture, je dirais, académique et scolaire, et puis la culture commune, et notamment la culture populaire. Et j'ai quand même envie de revenir à ce que vous disiez précédemment sur les grandes figures qui sont nos référents communs dans cette histoire. Moi, j'ai comme beaucoup d'enfants lu les aventures de Tintin. En plus, Tintin avait comme intérêt particulier d'être assez androgyne. Donc, les référents de cette histoire étant quand même très masculins, quand on est une petite fille et qu'on a le goût de l'aventure, Tintin, c'était pas mal parce que ça permettait de se rattacher à un profil qui était évidemment constitué comme masculin, mais dans lequel une petite fille pouvait se retrouver finalement assez facilement. Donc évidemment Tintin, Tarzan, Lucky Luke, la bande dessinée c'est extraordinaire pour les enfants, donc ça fait aussi le contrepoint de la culture plus académique et scolaire. Donc il y a comme ça des grandes figures de la culture populaire qui sont tout à fait liées à notre histoire, et puis évidemment un certain nombre aussi de films. Notamment les films de Walt Disney. Je pense particulièrement à l'adaptation par Disney en 1967 du livre de la jungle, avec le personnage de Mowgli. Et là, on commence un peu à se décaler, quoi. C'est-à-dire, on commence à avoir aussi des enfants héros qui sont issus des populations autres, comme on les définit alors. Et donc, le livre de la jungle, c'est un moment très important de cette transition.
Et un très beau dessin animé de Disney. On va revenir à l'évolution des publications. Mais Pascal Diby, vous m'avez fait signe quand on a parlé de l'Atlas et des cartes, parce qu'il y a un objet important, c'est le globe, ce globe terrestre qui est à la fois un objet de connaissance géographique et puis presque un jouet, il s'offre aux enfants.
On va inventer les livres joujoux. Alors, c'est quelque chose de nouveau, effectivement, ce livre presque interactif où qu'on ouvre, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut déplier effectivement des paysages et en même temps des espaces dans lesquels l'enfant peut intervenir. Soit il peut construire son globe terrestre, soit il peut construire, je sais pas quoi, une maison, un faré tahitien ou un tipi indien. Et donc, il peut enfin pratiquer, si je puis dire, l'univers de l'eau, d'une certaine façon. Mais pour ça, il a fallu beaucoup d'opiniâtreté de la part des éditeurs. On voit très souvent, d'ailleurs, que ce sont des petits éditeurs, sont chez un libraire, et c'est après la création des grands groupes, style Hachette et autres, où là, il y a une littérature enfantine qui, en partie, a dû venir d'Amérique, je suppose, traduite, et puis après, il y a eu une production plus française. Mais, en tout cas, on a commencé là un nouveau marché pour les enfants. Ça voulait dire, effectivement, que notre rapport à l'enfance changeait, que l'espace habitable même pour l'enfant faisait qu'il avait son univers privé et qu'il pouvait se construire son monde avec le monde qu'on lui proposait, peut-être moins, je dirais, piraté que celui qu'on avait construit dans ce qu'on lui proposait de façon rigide quelque temps avant.
Un monde dans lequel on peut rêver, se projeter, et une proposition, donc on l'a dit, qui va évoluer avec le temps. On a parlé du livre de la jungle, on peut parler de ce regard qui se transforme aussi grâce à de grandes figures d'explorateurs. On pense à Paul-Émile Victor, dont les livres pour enfants, parce qu'il en a fait, sont arrivés bien jusqu'à nos générations, tout du moins après, je ne sais pas, avec des publications qui ont continué tout au long du XXe siècle.
Bien sûr. Pour Paul-Émile Victor, on peut citer le Apoutsiac qu'il a fait dans
Petit
la collection
Flocon de neige.
Voilà, dans la collection Les Histoires du Père Castor. Voilà, on a cette production à partir des années 50 où les auteurs se documentent, où on fait appel à des ethnologues, à des anthropologues pour raconter, et on voit aussi apparaître l'autre qui se raconte. On est allé à la rencontre de l'autre, on est allé explorer l'autre, mais aussi à travers les contes du monde entier, on va avoir l'autre qui se raconte à nous.
Et cet autre, c'est un enfant, un enfant d'ailleurs, par exemple.
Et un enfant d'ailleurs, il y a un renversement du discours, et c'est l'enfant d'ailleurs qui raconte son ailleurs.
On peut parler peut-être des collections, en particulier des albums du Père Castor.
les albums du Père Castor, la collection de Dominique Darbois, Les Enfants du Monde aussi, qui était très bien documentée. Et voilà, il y a toute une production au milieu du XXe siècle qui est assez intéressante pour les enfants.
On s'intéresse aux enfants d'ailleurs, et d'ailleurs, on continue de s'y intéresser. Je propose d'écouter le générique d'un petit dessin animé, il est tout récent.
Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouche, mouche, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouche, mouche, dis-moi comment c'est là-bas.
Raconte-nous ton beau voyage, dis-moi comment c'est là-bas. Alors Mouk, c'est un dessin animé qui s'adresse aux enfants assez petits, peut-être aux 4-7 ans, mais finalement il reprend un invariant, hein, c'est raconte-moi ton voyage, je le disais, Pierre-Yves Belfis. C'est ça le discours aujourd'hui sur l'ailleurs, sur l'autre ?
C'est un des discours sur l'ailleurs, MOOC, la chanson très entêtante.
Je suis désolée de l'avoir diffusée.
Pas de souci. De MOOC, ça fait partie des choses qu'on peut voir. Il y a plein de champs à explorer. Il y a aussi le champ de la science-fiction. On peut imaginer des choses comme Star Trek, où on raconte l'autre aussi. On va voir l'autre, même si c'est un autre fictif. On va retrouver les mêmes ingrédients que dans toute la littérature précédente. Du sauvage, extraterrestre, presque. Et on va leur raconter de la même façon qu'on a raconté l'autre avant.
Je vais m'adresser à l'ethnologue. C'est un invariant, ce besoin de raconter... l'autre, l'étrange, de raconter le voyage, quitte à inventer un voyage, par exemple, vers d'autres univers. On faisait une petite référence à Star Trek.
Oui, mais je pense qu'en fait, maintenant, ce à quoi on va s'intéresser, c'est plutôt à soi et à l'autre moi. C'est-à-dire, je vous avais dit au début que finalement, on a eu ce grand choc qu'il existait un autre jeu. Et cette fois, c'est l'idée qu'il puisse exister un autre moi, c'est-à-dire au sens où je crois que l'univers se rétrécit en s'agrandissant. Et il faudrait qu'on prenne en compte aujourd'hui la façon dont les enfants utilisent Internet et comment effectivement ils vont vers l'autre. Mais c'est un autre généralement qui peut lui répondre et qui est peut-être un lui-même autrement disposé. Donc ça, c'est une nouvelle exploration à faire, parce que je crois que cette vision du monde que nous, on a pu... construire à travers justement tous ces ouvrages qu'on a eus, qui étaient magnifiques, imprimés, qu'on a tenus dans les mains, qu'on était nous-mêmes sur les genoux de quelqu'un, etc. Je crains aujourd'hui que quand un enfant est sur Internet, il n'est pas sur les genoux de ses parents et qu'il est parti chez un autre, lequel je ne sais pas.
On pourra peut-être y consacrer des expositions dans le futur. En attendant, je précise que le magasin des petits explorateurs, c'est au musée du Quai Branly à Paris. Jusqu'à quand, Pierre-Yves Belfis ?
Jusqu'au début octobre.
Merci beaucoup à tous les trois, Pierre-Yves Belfis, Pascal Diby et Christelle Tarot. On remercie aussi Roger Boulet, le commissaire de l'exposition qui a coordonné ce catalogue, le magasin des petits explorateurs. Il est publié chez Actes Sud en partenariat avec le musée Quai Branly Jacques Chirac et il est magnifique. On passe à la dernière rubrique de l'émission, c'est la leçon de choses. La leçon de choses de Sophie Bobert avec Valérie Jouve, photographe, une enfant rêveuse et déjà artiste, enfant de la lutte des classes aussi, qui a grandi dans une ville ouvrière, Firminy.
Alors, il y a plusieurs périodes dans une enfance. Je dirais qu'il y a eu des périodes où vraiment je détestais ma ville parce que je trouvais que c'était une ville noire. Et c'est vrai que toutes les architectures étaient empreintes de cette poussière de mine, quoi, de charbon. Et par contre, quand ma grand-mère a déménagé donc d'une maison assez précaire, ça s'appelait la Corniche, qui était un bâtiment qui faisait un peu la limite entre la ville et la campagne et qui faisait partie de tout cet ensemble urbain que Le Corbusier avait imaginé, qui s'appelait Firminiver. Et cette architecture m'a beaucoup plus dans le sens où on était en même temps à la ville et en même temps à la campagne. Et je dirais qu'encore aujourd'hui, et j'ai retrouvé un ami de cette époque il y a une semaine, on s'est dit que quand même on avait été fondé, on avait eu de la chance de grandir dans cet environnement-là.
Petite déjà, vous aviez ce regard politique et social hein, sur votre environnement.
Alors ça, oui, j'avais ce regard politique et social pour une raison très simple, c'est que je venais d'un couple, mon père était plutôt d'une famille petite bourgeoise et ma mère vraiment de famille prolétaire, mineure et usine, et qu'il y avait déjà, comme un jour mon analyste me l'avait dit, vous avez vécu la lutte des classes toute petite, et que c'est vrai que c'était très prégnant dans la famille, avec beaucoup de conflits, et d'une certaine manière, j'avais été rangée par ma grand-mère bourgeoise du camp, dans le camp de ceux des petites gens. Et du coup, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a posé beaucoup de questions.
Comment est-ce qu'elle s'est traduite, cette lutte des classes, Valérie Jouve ? Est-ce que vous aimiez vous rendre à l'école ? Et est-ce que vous y étiez bonne ?
J'étais pas bonne du tout à l'école. J'étais une enfant, alors j'ai beaucoup changé depuis, parce que j'étais une enfant qui parlait très peu, qui était très émotive, et du coup, je passais mon temps à regarder par la fenêtre. J'avais déjà une tête qui un peu ce qu'on appelle une tête en l'air, et je dirais que j'ai commencé à aimer les études à partir du moment où j'ai eu mon bac avec difficulté, je l'ai passé deux fois. Ça a été une période très lourde pour moi, mon enfance à l'école. Et par contre, dès que je suis arrivée en sociologie à Bron, à Lyon, et ben là, j'ai eu du plaisir à lire, j'ai eu vraiment du plaisir au savoir, quoi, à me cultiver et à faire des recherches. Mais ça a été très tard.
Il y a eu, je crois, tout de même, hein, Valérie Jouve, un moment décisif hein, dans votre parcours lorsqu'à l'âge de 12 ans, lors d'une sortie scolaire, ici au Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne, vous avez découvert la peinture et la peinture de Bram van Velde. Hein.
Oh là là. Alors c'est une époque déjà quand j'avais 8 ans, j'étais donc beaucoup dans une cité, quoi, et il y avait la grande maison de la culture Corbusier, qui était un espace magnifique à vivre, quoi. Et je faisais beaucoup d'activités dans cette maison de la culture, et à un moment donné, mais une occasion m'a été donnée d'écouter un orchestre symphonique. J'étais pas du tout d'une famille où on écoutait de la musique classique, et j'ai repéré un instrument qui s'appelait le violoncelle. Et j'ai même été voir la prof à la fin du cours en lui disant, mais vous savez, cet instrument, on a réécouté, et elle m'a dit, mais ça, c'est du violoncelle. Donc j'ai été à la Maison de la Culture, il y avait des cours de guitare, de violon et tout. Et je disais, moi, j'aimerais faire du violoncelle. Et on m'a dit, il faut que tu trouves au moins 3 personnes pour qu'on arrive à faire un groupe et faire venir un prof de Saint-Étienne. J'ai trouvé les 3 personnes qui n'ont pas obligatoirement...
Pas mal.
C'est déjà pas mal, mais j'avais un esprit persuasif quand même, déjà à cette époque. Et j'ai commencé le violoncelle. Bram van Velde, du coup, pour moi, c'est comment l'art à avoir avec la tonalité, avec des tessitures. Et pour moi, Bram van Velde est peut-être l'artiste qui se rapprochait le plus de ce son du violoncelle, qui a une certaine gravité avec des couleurs. Bram van Velde n'a jamais été un artiste qui a travaillé la couleur vive, mais plutôt des couleurs sourdes. Et je suis rentrée dans ce tableau, mais vraiment, c'est la première fois que j'ai eu une expérience très physique avec quelque chose qui est normalement seulement du visuel. Donc Bram van Velde m'a ouvert les yeux sur l'amour que je pouvais avoir. Alors je pourrais pas dire l'amour de l'art parce que ça m'est venu bien après, mais que j'avais eu une vraie expérience qui allait au-delà du seul regard, du seul œil que je pouvais porter à une peinture.
Et pour voir ou découvrir le travail de la photographe Valérie Jouve, vous pouvez aller à son exposition Familiarité en écho, c'est au MAM de Saint-Étienne. On se retrouve dimanche prochain à 17h sur France Culture, ou bien quand et où vous voulez, en podcast évidemment. On remercie Somanina, notre réalisatrice, Clément Daté à la prise de son à Paris, Julien Dispo à Bruxelles et Marie Dalquier, notre attachée d'émission. Et on se souhaite à tous une excellente soirée sur France Culture.